Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 13 du Souterrain. Vous êtes avec Matraque pour les deux prochaines heures. Et pourquoi deux prochaines heures? Parce que cette semaine, on a un épisode un peu plus long qu'à l'habitude. On va avoir une chronique spéciale, un invité spécial en chronique. Et donc, avant qu'on aille avec le pacing du show, je voudrais vous souhaiter en mon nom et au nom de toute l'équipe un bon temps des fêtes. Ça donne que le podcast sort... quelques jours avant Noël, donc à vous tous les auditeurs qui êtes là depuis le début, on vous salue, on vous remercie d'être là, toujours un peu plus nombreux, et de nous envoyer vos feedbacks par rapport au show. Donc vous pouvez évidemment continuer à nous écrire, soit par Instagram ou le compte Facebook de l'émission. D'habitude, on répond assez rapidement. Et donc, c'est ça pour les souhaits de joyeux Noël, bref. Et qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? On va avoir, comme je disais tantôt, un invité spécial en la personne de Nafre. Donc, ceux qui sont des fans de radio et d'émissions underground qui sont liées au black metal, vous connaissez sûrement Hurlement sur la toundra. Et Nafre se trouve à être l'animateur de ce show-là, et il fait aussi des collaborations dans Ars Macabra avec mon autre show de radio depuis à peu près, je vous dirais peut-être un an et demi. Et il nous a fait une thématique spéciale pour le dernier épisode qui était sur la thématique de la guerre, et il voulait nous parler notamment de l'Acadie, parce que le 13 décembre, c'est la journée commémorative des Acadiens, et il voulait faire une chronique en lien avec ça. Excellente chronique d'ailleurs. Et là, il est arrivé ce qu'on appelle un code 18, c'est-à-dire que je me suis trompé, puis j'ai fait jouer une reprise d'une ancienne chronique. Et là, ça se trouve que la chronique originale qu'il venait de nous faire pour cet épisode-là n'était pas diffusée. Et pour justement me reprendre sur celle-là, disons ça comme ça, je lui ai offert de passer dans le souterrain. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre ce soir une chronique de Nafre. Et c'est quelque chose qui est différent, parce que c'est vraiment celle qui était supposée passer à la radio. Il y a un contenu un peu plus... vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'on fait dans le souterrain d'habitude, sauf que le contenu est vraiment là, et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Et là, évidemment, l'autre affaire qu'on va avoir, cette semaine, on a un conte de Quentin Fourreau qui nous amène cette fois-ci en Russie. Je vous en dis pas plus, c'est un excellent conte encore une fois, et on va commencer ça sans plus tarder avec la boîte de Pandore avec Michel Perron. Et donc, il est celui qui tient et qui ouvre la boîte de Pandore. Salut Michel.
Hey, salut, comment ça va?
Yes, ça va bien. Et là, écoute, cette semaine, si vous voulez nous parler d'un sujet, j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet-là, parce que c'est quelque chose de vintage.
Ah, totalement vintage. On va parler des forums aujourd'hui. On en avait glissé un petit peu mot, je pense, à ma première chronique, qu'on parlait que c'était une vieille relique des médias sociaux. Mm-hmm. Puis... encore aujourd'hui, on a encore un petit peu de traces de ces reliques-là quand on fouille un peu sur Internet. Mais tu sais, nous, au Québec, je pense que le forum qui nous a le plus marqué, c'était la capitale du métal.
Oui, c'est probablement... quand tu parles de forum au métalleux au Québec, c'est le nom qui sort le plus, c'est ça.
Bon, évidemment, on a un peu tous été là-dessus, puis ce qui était le plaisant à cette époque-là, c'est que, en l'absence de Facebook et tout, c'est que c'est un endroit où est-ce qu'on était capable de trouver une manne d'informations concernant, oui, les groupes, concernant, oui, les shows, concernant les sorties, mais aussi pour les ventes et les échanges.
Effectivement. Ça fait
qu'il y avait un bon melting pot d'informations.
Oui, mais c'est un peu, c'est un peu comme tu as dit, c'est l'ancêtre du réseau social, puis les gens autant allaient là pour commenter, chercher des affaires, autant que des groupes allaient là pour faire de la promo, que des promoteurs allaient là pour justement annoncer les shows qu'ils bookaient. Ça servait vraiment à tout le monde, puis c'est un modèle qui, on parlait tantôt, c'est vintage, mais c'est parce que justement, il y a un côté, les réseaux sociaux ont tellement bien repris ça que c'est maintenant plus compartimenté. À l'époque, c'était quand même quelque chose qui était un grand sac fourre-tout, un forum, là.
c'est un grand sac fourre-tout, mais moi, je trouvais que c'était mieux compartimenté. Le problème, c'est qu'avec Facebook, c'est que si tu as une page, on va prendre une page dédiée au métal noir québécois, il y a tellement de sujets et de posts qui se surstackent les uns par-dessus les autres.
Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire.
C'est très difficile de retrouver quelque chose. C'est sûr qu'il y a moyen de faire avec le moteur de recherche en haut quand c'est permis, évidemment. Là. Mm-hmm. Mais dans tous les cas de figure, c'est pas nécessairement permis. Ça fait que des fois, tu voudrais avoir une information, tu la trouveras jamais. Tandis que le forum, lui, tu avais toujours un sujet perdu un peu à quelque part, là, 2-3 ans, où à un moment donné, quelqu'un sortait, ressuscitait un sujet. Parce que si un band avait son propre topic, eh ben le gars du band venait poster dedans, puis là, le topic remontait carrément en haut, et là, tout le monde pouvait intervenir là-dessus, puis là, on pouvait prendre connaissance des vieux sujets, tandis que la fonctionnalité de Facebook, tu peux pas vraiment faire ça.
Oui, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, puis je dois avouer que tu as raison, la façon, parce qu'il y avait des modérateurs qui, au lieu de gérer du monde qui faisait des crises de bacon pour des conneries d'enfantillage comme aujourd'hui sur Facebook, on avait des modérateurs qui s'occupaient juste de, écoute, ton sujet, il rentre dans tel sujet, je te fusionne ça avec l'autre page, merci, bonsoir, comment t'es là, puis effectivement, c'était peut-être un peu plus clair, c'est surtout, j'ai l'impression que ça enlevait toute la pollution, tu sais, toute la merde que tu veux pas entendre puis que tu veux pas lire, t'allais direct droit au but à ce que tu voulais puis t'avais l'info.
Non, exact. Le drama qui s'était passé à la troisième page sur 69,
c'est ça.
On s'entendra que tu vas passer tout droit. Ah, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Tandis que Facebook nous apporte malheureusement les problèmes qu'on connaît avec les débordements.
Oui, effectivement.
Puis les forums, oui, se sont éteints à cause de Facebook. Mais aujourd'hui, je voulais parler un petit peu qu'il y en a certains qui ont incroyablement survécu à tout ça. Il n'y a pas longtemps, c'est peut-être un an ou deux, on a eu, je crois même c'est l'année passée, on a eu la perte du forum de Nuclear War Now.
Ça a fait mal.
Oui, ça a fait très mal. Très, très mal. Que ce soit pour les groupes, que ce soit pour la promotion, c'est un forum à haut débit de circulation. Mm-hmm. Ça faisait en sorte que ça regroupait bandes d'individus. Ça fait que dans ce temps-là, il faut que tu essaies de te réchapper ailleurs, mais je crois pas qu'il y ait réellement eu de personnes ou de forums qui ont réellement repris la balle au bon. C'était plus une lente agonie, une fois encore. Et le forum, on avait eu des bribes d'informations comme quoi Yosuke peut-être pouvait le remettre en ligne. Un an plus tard, on est forcé d'avouer que malheureusement, c'est pas arrivé.
Ouais, puis le momentum est peut-être perdu aussi, là.
Oui.
T'sais, après un an, là, moi, matin, j'ai pas le réflexe d'aller voir si le forum est réactivé, là.
Non, puis comment tu fais la promotion que tu réouvres ton forum?
Ouais, c'est ça. Quoique lui, en tout cas, avec le label et tout, il serait capable d'aller pousser.
Oui, vraiment. Il mettrait un flyer dans chacun de ses affaires.
Oui, c'est ça.
Ça finirait probablement que ça restarterait, ça serait pas un problème.
C'est ça, mais c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut partir un forum un matin puis que ça va pogner autant que ces plateformes-là ont déjà pogné, là.
Non, puis ça finit par s'éteindre. Moi, je n'avais starté un pour le groupe de Voldol à l'époque, puis il est mort de sa belle mort. Je l'ai enterré il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, parce que justement, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Anyway, personne n'allait là-dessus, puis justement, Facebook a détrôné. Mais pour revenir à Nuclear Warner, parce que à l'époque, je connaissais pas Blasphémie. On remonte à plusieurs années, puis j'avais découvert le forum. Puis pour t'inscrire sur le forum de Nuclear Warner, il demandait pourquoi être sûr que tu ne sois pas un bot, évidemment, un robot, ou un bizarre, ben il te demandait, c'était Fallen Angel of, puis il fallait compléter la phrase. J'ai cherché comme un défoncé à savoir ce que c'était. J'ai fini par le trouver, évidemment, avec un peu de curiosité quand même. on s'attendra que quand t'es pas familier avec Blasphémie, c'est pas la première.
Effectivement.
Non. Ça fait les
mais
forums...
ça aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, il y a certaines pages, notamment Facebook, qui va avoir un petit commentaire, un genre de questionnaire au début de, tu sais, pourquoi tu vas être sur cette page-là, puis tu sais, nomme-moi 5 bandes death metal, tu sais, puis là, ne serait-ce que justement éviter les robots et éviter le monde qui font juste adder des pages pour adder des pages, là, aussi, là. Ça, je comprends qu'il y ait un certain filtre là-dessus, là.
Oui, c'est très correct.
Tu sais, c'est... mais oui, effectivement, c'est ça par réponse à la fin.
Puis dans les autres forums, je te dirais, il y en a un français qui existe encore. On salue nos compatriotes qui nous écoutent. Il y a le Spirit of Metal qui roule encore aujourd'hui.
Oui, oui.
Au moins, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a réellement des posts quotidiens qui semblent se faire. Puis il y a encore un suivi. Ça au moins, c'est encourageant de voir qu'il y a encore une relève là-dessus. Il y a une page dédiée un peu au Québec. La section québécoise est je dirais même désertique. Je pense qu'on n'a pas le réflexe ici d'aller sur les forums français. Peut-être plus à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est d'une tristesse.
Oui, puis il y a pas, tu sais, c'est plate à dire, mais les Français sont plus des leaders là-dedans, pas en tout, là. Fait que, tu sais, on n'a pas le réflexe d'aller valider ça. Puis, moi, des Français que je connais, il y en a beaucoup qui c'est justement les réseaux sociaux trad, là, comme on a. Ben, trad, j'allais dire. Mettons les Facebook, Instagram, c'est moderne, disons. C'est pas trad, oui. C'est moderne, là. Ils sont vraiment plus là-dessus. Le modèle, justement, plus trad de forum, comme tu parles, c'est pas tant de quoi qu'on entend parler. T'as quelques labels qui sont spécialisés vraiment dans les cassettes, puis toutes qu'eux autres, en tout cas, le gars d'Atavism Record notamment, qui est un gars super old school et tout, mais c'est pas tout le monde qui partage ce côté-là old school, fait il y a... C'est ça, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu un temps qui révolue, puis c'est dommage parce qu'il y avait vraiment... Tu sais, tantôt, on parlait de Capital du métal. Il y a un bout de temps à Québec, là, si, tu sais, les nouvelles, ils sortaient là.
Ben oui.
Tu sais, si t'étais pas allé vérifier la page du forum dans la journée, ben tu venais peut-être de passer à côté d'une sortie ou d'une annonce de show. Tu sais, quand tu voulais savoir si un show était vraiment confirmé, t'allais voir s'il y avait une affiche sur Capital du métal.
Oui, effectivement, les flyers c'était directement là. Puis c'est même les ventes. Je me rappelle dans le temps, il y avait un gars, son nick, il s'appelait Dark Dreamer. Puis il avait vendu l'ensemble de sa collection. Je pense que le gars partait en voyage, je sais pas quoi, là, je me rappelle pas exactement. Mm-hmm. Puis il avait tout passé son stock, puis il nous traitait de rapaces parce qu'il vendait pas cher, ça fait qu'il fallait se servir. Là. Il me semble que j'avais rien acheté. Mais quand même, pour les gens qui voulaient liquider leur matériel, il y avait quand même une certaine utilité parce qu'aujourd'hui, aller porter ses CD dans les magasins de disques usagés, ça a pratiquement rien, puis ouais. C'est eux autres qui font amende. C'est que dans l'absolu, t'es aussi bien de transmettre ta marchandise puis ton stock à des gens qui ont un intérêt réel et non un commerçant qui peut se faire la poche avec ça.
C'est parce que le commerçant, il va te dire « je t'achète le lot pourtant », puis tu sais, que t'aies des perles ou des cochonneries dedans, tu sais, il achète le lot. Fait que rendu là, si t'as des affaires qui valent un peu plus cher ou qui sont plus rares un peu, mais lui, pour lui, ça n'a aucune valeur de plus. Puis souvent, les commerçants comme ça, c'est leur job, c'est vendre le stock, c'est pas tant de le connaître par cœur, là.
Non, je suis d'accord.
Fait que rendu là, ben ça se peut qu'il passe à côté de quoi, puis que... Mais je te ferai le parallèle avec la bière, OK? Il y a des microbrasseries, il y a des bonnes bières de microbrasseries, puis des dépanneurs, OK, qui sont pas nécessairement spécialisés là-dedans, puis qui tiennent ça. Puis je me rappelle d'un dépanneur en particulier que je nommerai pas parce que c'est ma plug, mais le gars... Le gars, tu sais, tu vas le voir, puis il fait « Ah oui, là, j'ai une porteur baltique de trois mousquetaires, là, elle est vieille de 2 ans, là, je t'ai fait à rabais, faut que ça débarrasse de ma tablette. » Tu sais, elle est déjà vieillie, là. Il y a du monde, tu sais, tu pourrais monter le prix pour ça, mais le gars, il sait pas ce qu'il y a, fait qu'il t'a vendu à rabais. Fait que, tu sais, t'as peut-être une chance avec le commerçant, le magasin de disques usagés, d'aller chercher une petite loque à pas trop cher, mais c'est tellement rare que ça peut arriver, que t'es mieux d'y aller du par cas avec justement des fans, puis de se parler entre collectionneurs. Là.
Je parlais maintenant avec un monsieur où on attendait pour rentrer au Records Tournée du Knockout, puis il me contait qu'il avait acheté chez CD Mélomane un vinyle, je pense que c'était un 6 pouces, puis il valait 300-400$, puis il s'en était pas rendu compte, il avait payé ça 5-6$. Il a dit après, il est en maudit, mais écoute, c'est l'erreur du commerçant, là, Mané, c'est
ben oui.
Tu fouilles tes affaires.
Ben t'sais. Oui. Ben, mais c'est ça, tu sais, c'est. Puis à quelque part, ça, c'est leur job de valider ça. Fait que, tu sais, s'ils n'ont pas fait leur recherche, en tout cas, faire leur recherche, c'est une expression qui est quasiment bannie avec tous les conspirationnistes de ce monde. Mais bref. Ouais. Mais tu sais, si le gars, il a fouillé un peu, il est allé chercher les infos, en théorie, il serait supposé l'avoir vu passer, là.
Oui, normalement.
Ouais. Effectivement. Mais oui, les forums, c'est quelque chose qui n'est plus vraiment à jour. Puis, dans une certaine mesure, c'était quand même cool. Moi, j'étais pas un gros contributeur. Par contre, j'étais le genre de gars qui allait lire beaucoup. Tu sais, oui. C'est un peu comme il y a plein de pages Facebook de métal que je suis, puis que je vais pas nécessairement commenter, mais tu sais, ben, on a déjà parlé un peu dans Souterrain, là, c'est que tu sais, moi je vais aller voir pour justement les nouveautés, les bands qui vont poster une nouvelle toune, qui vont faire leur promotion là, puis tout. Puis des fois, tu tombes sur quelque chose de vraiment intéressant, tu sais, c'est pas tout le temps tout bon, sauf que t'es capable d'aller chercher des affaires cool. Évidemment, ça nécessite plus de recherche parce que, comme tu disais, le forum était plus découpé par topic et tout, c'est plus facile, mais bon, t'as des pages qu'on on les connaît toutes, là, les pages plus fiables que d'autres. Là.
Non, non, c'est évident que si tu veux au moins trouver de l'information, tu consultes les bonnes pages, parce que si tu t'en vas sur les, un peu sur les sites, tu veux pas dire qu'il y a de la désinformation sur Facebook, là, quoi que oui, là, mais donc côté métal, on se cachera pas qu'il y a des pages qui sont plus intéressantes que d'autres, puis qu'il y a plus d'interactions que d'autres aussi.
Oui, oui. Mais ça dépend aussi, c'est quoi, je pense, la motivation de la personne qui a parti la page, tu sais. Il y a du monde qui part de quoi, puis qui pense que ça va rouler tout seul.
Effectivement, c'est pas parce que tu écris Métal Noir québécois que ça va nécessairement lever.
Non, c'est ça.
De Métal Noir québécois, je pense qu'on est rendu à 3-4.
Ouais, puis il y en a une qui, tant qu'à moi, fait un peu plus office de référence, là, tu sais, qu'il y a plus de stock intéressant. Les autres, en tout cas, rendus là. L'autre affaire, c'est ça, le fait que ça split un peu, comme, tu sais, c'est plus éclaté un peu. J'ai l'impression que ça doit être plus dur à trouver de l'info parce que, ben, tu sais, même nous, avec le show, on va le partager un peu sur toutes les pages pour aller chercher un bon reach. Sauf que, tu sais, si tu lances, si t'as une nouvelle pour ton ben, tu sais, tu vas choisir la page où t'as le plus de reach, puis tu vas pas nécessairement aller poster sur 10-12 pages ton affiche de show, là.
Non, puis des fois, il y a des pages, de toute façon, ils ont tellement de fans. Puis on dirait qu'il y a absolument zéro interaction. Hein, tu vois, il y a, oui. Il y a 12 000 personnes d'inscrits, mais chaque photo a 2 likes. C'est pas plus valide. Quoi que c'est pas parce que tu likes pas que tu l'as pas vu.
Oui, ça, par contre, j'ai une théorie à la Sylvain là-dessus. Il y a déjà, en tout cas, je l'ai vu pour certains ben, puis moi, à un moment donné, j'avais reçu un message de ça. Ça a l'air moins courant ces temps-ci, mais c'est quelque chose qui était quand même assez présent, voilà, peut-être un 4, 5, 6 ans sur Facebook. Là, c'était les compagnies ils t'approchaient pour te vendre des likes. Là, tu payais un forfait à 10$, puis là, eux autres, ils te garantissaient 500 likes. Mais tu sais, Amadou Pushkin du fin fond de la Tchétchénie, là, je m'en crisse.
Il achètera pas ton stock.
Ben oui, je m'en crisse-tu qu'ils mettent un like. Le trois quarts de ça, là, c'est des faux comptes. Tu sais, moi, c'est ça, j'avais répondu au message. J'étais comme, ouais, mais tu sais, tes 500 likes qui viennent de l'Antarctique, j'en ai rien à chier, là. Tu sais, c'est.
Oui, je suis d'accord. On a connu ça avec Duclos au Québec.
Mais c'est ça. Fait que là, bref, on dirait que c'est une tangente qui est moins là, sauf que tu as des pages comme ça qui ont des 3, 4, 5, 6 000 personnes ajoutées dessus, puis effectivement, tu sais, quand tu as 2 commentaires par photo ou par post, ben, sont où les 6 000 personnes, tu sais, ça sent le robot, là, informatique, là.
Ah oui, ça, c'est évident.
Mais bon, regarde, on est rendu ailleurs, j'espère, là.
Oh, ben oui, totalement, totalement ailleurs. Tu sais, dans les forums, ce qui arrive aussi, là, c'est que pour être capable de trier, il y en a encore qui vivent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? T'sais, je regarde un forum comme l'Ultimate Metal, il y a une section justement achat et vente. Ça fait que pour le collectionneur, tu es capable peut-être d'aller chercher quelque chose. Moi je pense que si les auditeurs veulent consulter un forum encore qui est un tant soit peu actif et qui a encore un peu d'utilité selon moi, là, c'est d'aller chercher celui-là qui est en lien direct avec Metal Archive. Je pense pas que ce soit tout le monde qui sont au courant qu'il y a un forum avec Metal Archive, parce qu'il faut que tu ailles cliquer une place spéciale, puis ben, là, le forum t'apparaît.
Ben, je pense que oui, dans une certaine mesure, parce que pour m'être déjà fait un compte pour ajouter du data dessus un peu, tu sais, je voulais mettre ma contribution des sorties de band puis tout, puis il fallait que absolument que tu t'inscrives puis que tu passes par le forum dans le temps pour te créer un compte.
Moi, je sais pas si c'est encore de même.
Fait que je sais pas si c'est encore comme ça. Je te dirais que depuis que j'ai plus mon label, j'ai pas vraiment retouché à ça. Puis je me suis même pas mon mot de passe. Je pourrais même pas aller vérifier, là. Sauf que la section forum, c'était comme la porte d'entrée pour entrer dans la plateforme pour donner des, mettre des modifications et tout, là. Fait que peut-être, en tout cas, je sais pas si c'est encore de même. C'est sûr que la personne qui va visualiser le site pour chercher une info, effectivement, si tu cliques pas sur forum, tu sais pas qu'il y en a un.
Non, 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 c'est évident, là. C'est très occulte.
Ouais. Puis, pour côté, tu sais, quand tu parlais, je sais pas si le monde va bien là, j'ai jamais vu de souvenir, j'ai jamais vu quelqu'un poster un article ou un topic du forum de cette page-là sur, mettons, son Facebook, là.
Non. Non.
Fait que, mais quoi qu'en même temps, c'est peut-être, tu sais, les anglophones sont peut-être un peu plus portés là-dessus. Là. Tantôt, on parlait que les Français, il n'y en a plus ben non plus qui vont sur les forums. C'est peut-être côté francophone que ça a vraiment descendu. Je sais pas en anglais, tu sais, ça ressemble à quoi les pages et tout, là. Mais en tout cas, théorie comme ça, c'est peut-être juste en français qu'on a arrêté d'alimenter ça parce qu'on est passé à un autre mode, là.
Je pense que t'as raison sur c'est ton interprétation, parce que, mettons, le forum de Metal Archive, il roule encore énormément.
Oui, mais c'est ça. Il y a des updates quotidiens là, de ce qu'on peut voir quand on va sur la page. Là. C'est la première affaire qu'on voit, là, les updates. Là.
Oui, c'est monstrueux. Puis c'est peu, je dirais que c'est peu importe le topic, même, c'est sûr qu'il y a des vieilles cochonneries qui datent du temps de Barabbas, là, ça c'est correct. Là. Mais d'un fait, ça a une utilité aussi que tout soit encore répertorié, parce que si je peux te donner un conseil de bonne utilité du forum, oui, OK, il y a des gens qui vont mettre leur liste de trades, ils vont mettre leur liste de ventes, ils vont mettre leur want list, puis même le lien qui est même le linké avec leur Discord, c'est correct, mais il y a une très grande utilité au forum, c'est d'aller dans la fonction recherche.
Oui.
Qu'on peut sélectionner sur Metal Archive surtout. J'ai pas testé avec Ultimate Metal, il faudra que je le fasse avant de me faire siffler des affaires, là. Mais ce que tu peux faire, c'est choisir tu mets ton nom de band ou le nom d'un album, sélectionner la partie du forum qui t'intéresse, c'est-à-dire la portion vente ou la portion trade et échange.
Ah, c'est bon ça.
Que là, tu te ramasses pas avec si t'inscris. Satyricon, Dark Medieval Time, question que tu te ramasses pas à qu'est-ce que le gars écoute aujourd'hui, quel album j'ai acheté. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est y a-t-il quelqu'un qui le vend, qui l'échange. Ça fait qu'en faisant ça, ce qui est pas pire, c'est que tu es capable d'arriver des fois sur une vieille liste de trades de quelqu'un de là 4, 5 ans ou même 10 ans. Ça peut arriver que cette personne-là n'est plus active pantoute.
Oui, mais qu'elle vende encore.
Effectivement. Puis que la personne, à rigueur, le prix qu'elle a mis à l'époque, c'est un prix qui était dérisoire concernant la valeur du marché aujourd'hui. Puis ça se peut que la personne s'en essaye tellement à bout de l'avoir dans son sous-sol qu'elle décide tout simplement de te laisser un prix quand même abordable.
Oui. Ah, effectivement, il y a des chances de tomber sur des bijoux, mais ça revient un peu, la trame de fond un peu de toutes tes chroniques, ça revient tout le temps à la recherche.
Totalement.
Tu sais, il faut que tu ailles faire tes recherches un peu, puis encore là, l'expression est galvaudée aujourd'hui, mais ça reste que c'est ça, c'est de fouiller, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin plus particulièrement, plus précisément, tu sais.
Ah non, puis t'as pas le choix de chercher. Moi, je me rappelle d'une anecdote que probablement que tu vas me dire, Michel, ça n'a pas de bon sens ce que t'as fait. Non, je le concède, c'est débile. Un moment donné, tu sais, on se rappelle dans les dernières chroniques que j'ai faites, un moment donné, je disais que j'avais trouvé Métal Noir québécois puis les hivers de notre époque. Puis un moment donné, je m'étais dit, bon, là, il me manque traditionnalisme. Je dis, bon, on va faire un effort, on va essayer. J'ai essayé avec Google, comme je l'avais déjà fonctionné. Google a été un échec lamentable. je me suis dit, bon, ben regarde, on va essayer autre chose, on va y aller old school à mort. Ça fait qu'on va essayer un forum. Ça fait que là, justement, je suis allé sur le forum de Metal Archive. Puis j'ai trouvé un vieux topic d'un gars qui vendait justement ça. Mais là, le gars envoie un message privé, pas de réponse. Là, t'attends une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, il se passe rien. Ça fait que là, à un moment donné, je vais voir sur le profil du gars. Il y a un nickname qui est en lien avec ça. Je me dis, je prends le nickname, je le rentre dans Google, il m'apporte sur une page, je pense que ça m'a apporté vers un DeviantArt.
OK.
Puis là, ben, je me suis rendu compte que le gars faisait de l'art. C'est que là, ben, OK, mais il opérait aussi sous un autre nom. C'est que finalement, j'ai poussé encore plus loin, puis je me suis ramassé que c'était un gars, finalement, qui faisait de la musique électronique à cette heure, puis il avait carrément lâché le côté black metal.
OK.
Fait que j'ai écrit à sa pas sa fondation, mais plus à sa compagnie, parce qu'il produit de la maison, du genre de techno un peu.
OK.
Puis finalement, on m'a répondu. Je suis allé chez eux, il y avait deux traditionnalistes bleus qui traînaient.
Oh bordel, OK.
Ouais, j'ai ramassé les deux. Gris, il y avait le vinyle original, mais moi, j'avais pas les stickers pis ni la patch. Ça fait que j'ai ramassé la patch pis le sticker pour compléter mon ensemble. Il y avait le split de Chété avec Ziel.
Ziel Bévrid, là.
Oui, le Digibook de Monarque de Fier Hérétique.
OK.
Une cassette de Monarque qui n'est pas trouvable, que j'ai finalement vendu à Régis, que je regrette aujourd'hui. Merci, Régis. tout ça pour dire que, avec des fois des vieux topics, j'allais être capable de déterrer des gars d'entre les morts qui n'en ont absolument plus rien à faire du métal. Parce qu'il y en a, nous autres, on aime ça par passion, puis par amour, bien fait. Mais avec nos tripes, il y a du monde pour qui ce n'est qu'un élément transitoire dans leur vie et qui ont acheté et accumulé des choses que vous cherchez.
Ouais, effectivement. Et que, à la limite, justement, ça, comme tu disais tantôt, ça va lui faire plaisir de s'en débarrasser pour pas cher. Puis, ben, toi, la valeur d'un objet, tu sais, ça va être comment tu le désires.
Ben oui.
Tu sais, c'est pas pour rien. Tu sais, l'offre et la demande, c'est ça. Là, plus que le monde en veut, puis plus ça vaut cher, moins qu'il y en a, plus ça vaut cher. C'est tout simplement. Fait que c'est carrément le même principe. Là.
Ah non, c'est sûr et certain que l'individu qui est complètement déconnecté de la scène métal, puis de la scène black ou autre, puis qui pose la question, tu veux-tu t'en débarrasser? Ben oui, regarde, ça dort dans une boîte dans le fond de mon garde-robe depuis 10 ans, puis ma blonde Marcel, que je l'ai pour que je m'en débarrasse, je trouve pas le moyen.
Ouais.
T'arrives un peu comme le sauveur pour ça,
ouais.
Si je peux le dire de même.
Ben, comme tu disais tantôt avec ton gars qui fait de l'électronique et tout, il y a plein de musiciens. Tu sais, moi, il y a une affaire que j'ai remarqué là, dans ma vie. Tu sais, moi, je suis dans le métal depuis que je joue de la musique. Là, j'ai fait plein d'autres affaires à côté, sauf que j'ai tout le temps eu des bandes de métal. Puis là, ben, le Québec étant un petit territoire, ce que je remarque en vieillissant, c'est que ben plus que je vieillis, puis moins qu'on est de soldats au combat, tu sais.
Effectivement.
Fait que quand je vais jouer dans des certaines villes, il y a du monde que je connais, qui joue depuis aussi longtemps que moi, puis que ça fait 20 ans que je les connais, puis que justement, ils sont rendus avec leurs kids, tout, puis ils sont rendus 8 bennes plus loin, mais ils font encore de la musique et tout. Et là, tu te dis, hey, c'est vrai, un tel qui joue avec toi, ah, lui, man, je sais pas, il est rendu sa construction, il fait plus de musique. Un tel, il fait tel job, il fait plus de musique. Mais tu sais, ces gars-là, à l'époque, qui avaient des groupes, qui avaient échangé du stock, tu sais, parce que nécessairement, quand t'as un ben, tu vas faire beaucoup de trade, OK, avec d'autres groupes pour que ta musique se diffuse. Puis, ben, c'est une façon aussi pour toi d'aller chercher du stock un peu. Fait que ces gens-là qui sont plus dans le milieu, il y en a là-dedans qui ont encore des petits bijoux, puis qu'ils ont moins d'attachement émotionnel que d'autres là, à ça, puis que, bon, OK, tel CD de tel band, ils l'ont en stock, puis c'est cool, sauf que, tu sais, si tu y offres 10$ pour, ça se peut bien qu'ils veulent te le vendre pareil, fait que ça vaut quand même la peine de vérifier, je pense.
Ah oui, bien évidemment, il y a des gars, ils ont des caisses chez eux dans le fin fond de leur garde-robe ou chez leurs parents qui traînent.
C'est ça.
Ils ont des belles petites affaires qu'ils ont tradées il y a plusieurs années. Là.
C'est
je
ça.
Me rappelle, un moment donné, sur Discog, c'était La mort du prince T était rendu à un prix épouvantable. Puis finalement, ce que tu constatais, c'est que si tu creusais moindrement puis que tu étais capable de contacter une ou deux personnes particulières, les gars en avaient encore quasiment une vingtaine dans le garde-robe.
Ouais. Moi, j'étais sûr qu'il y en avait un peu de même. J'en ai vendu pas mal de celui-là avec mon label parce que je l'avais tradé et tout. Mais bon. Mais c'est ça, tu le sais pas. Puis il y a du monde qui ont ça qui dort dans le garde-robe. Puis l'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, tu l'oublies un peu, là, ton inventaire. Là. Moi, j'ai encore des affaires de mon label. Des fois, le monde me dit, t'as-tu ça encore? Hey, je sais pas, faudrait que je vérifie. Puis là, je fouille, puis, c'est vrai, il me reste une copie. Tu sais, t'es chanceux, il me reste une copie, t'as vu-tu? Fait que c'est le genre d'affaires. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps que je me fais demander ça, puis quand je vérifie, tu sais, le pire qui peut arriver, c'est que je te dise que je n'ai plus, là.
Ah, ben exactement. Ça, je l'avais dit, je pense, dans les premières chroniques. Le problème majeur, c'est que les gens sont gêné de poser des questions.
Oui, effectivement.
Le pire que tu peux t'arriver dans la vie, c'est un non.
C'est ça, c'est ça.
Et quand un projet te tient à cœur ou que tu aimes vraiment quelque chose, l'important, c'est de ne pas le laisser tomber. Il faut que tu fasses tout pour continuer ton projet.
Là. Effectivement, effectivement.
Puis, la pire affaire qui va arriver, c'est un non. Là.
Oui, puis mais c'est ça, regarde, faut fouiller un peu. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tes chroniques, c'est tout le temps ça, faut fouiller.
Ah ben oui, ben si t'attends, si t'es assis chez vous, puis t'attends que quelqu'un sonne puis qu'il te donne Burzum original, ça arrivera pas.
Là. Ben non, c'est sûr.
Ça arrivera pas.
Ouais. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai côté musique, là, un parallèle que je fais souvent. Il y a des groupes qui. Tu sais, tout le monde a déjà vu Wayne's World. Là. Bon.
Oui.
Tu sais, l'espèce de riche producteur qui arrive avec la Cadillac, avec les combes de bœuf en avant. Là.
Oui.
Bon. Il y a du monde qui s'attend à ce que le dude arrive avec une mallette pleine d'argent puis les CD déjà pressés, des tunes pas composées du band. C'est parce que ça arrivera pas, là.
Non, ben, c'est aussi pire que mon ami dans le temps qui me disait, Michel, j'ai hâte d'être à l'université, puis es-tu capable de me dire quand est-ce que l'employeur vient nous chercher?
Ben voyons donc.
J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il dit, oui, j'ai l'université, dans le gars venait, son père avait travaillé toujours dans les industries, puis lui, il avait une version très utopique de l'université que encore les employeurs débarquaient pour te pointer du doigt avec une règle. Lui, il me semble avoir un bon profil. Là, je vais vous le prendre, s'il vous plaît. Non, on n'est pas là.
Tu sais, si tu vas à Yale ou dans les grandes universités, ça se peut, là, mais l'université Laval, j'annonce que ça n'arrivera pas. Là.
À l'UQAC, non.
Non, c'est ça. Mais je l'ai dit. Les universités québécoises, ça n'arrivera pas, là.
Non.
Tu sais, c'est... En tout cas. Mais bon, sur cette note un peu pessimiste, mais bon. Mais c'est ça, pareil. Regarde, faut forcer les choses des fois. Faut pas attendre que ça se fasse tout seul parce que ben, ça se fera pas, tout simplement.
Non. Faut faire des efforts puis fouiller, que ce soit par tous les moyens que j'ai donnés jusqu'à maintenant. Les forums sont encore un aide qui vous est possible, c'est une avenue. Je vous dis pas que vous allez trouver, je vous dis pas que ça va réussir, mais plus on a de moyens de réussir, plus on a de chances de réussir. Une de mes anciennes patronnes disait, j'ai pas une obligation de résultat, mais j'ai une obligation de moyens.
Ouais,
c'est-à-dire que si t'essayes pas, tu mets pas tous tes efforts possibles pour réussir, c'est sûr que ça marchera pas.
C'est ça. Un gros merci, man. C'est une très bonne conclusion de chronique.
Ben, gars, ça m'a fait plaisir. Ça fait qu'on se reprendra pour une prochaine chronique prochainement.
Excellent. Ben, merci, Michel.
Ça fait plaisir.
Et c'était la boîte de Pandore avec Michel Perron. Et là, nous autres, sur ça, on s'en va entendre un groupe allemand qui s'appelle Godless Cruelty. C'est une pièce qui est tirée d'un album paru en 2007 qui s'intitule Gott im Chaos gestorben. La pièce s'intitule Gottes Uhren. Et on vient d'entendre le groupe allemand Godless Cruelty. Et là, nous, on s'en va entendre juste après ce bloc musical-là, la chronique de Nafre. Et pour ceux qui sont pas vraiment au courant, qui ont peut-être jamais entendu Ars Macabra, la façon qu'on fonctionne, moi et Nafre, c'est que je lui soumets la thématique du show, puis lui enregistre de son côté. Vous comprendrez que c'est assez difficile de faire une discussion à deux avec les communications satellites là-bas sans que ça lague et que ça sonne vraiment d'une qualité de, j'oserais même pas dire médiocre, tellement que le son est mauvais quand on fait ça sous forme de discussion, ce qui fait en sorte que c'est vraiment c'est un monologue, là, c'est une chronique monologue de Nafre, sauf que il a ce talent de nous amener puis de nous faire voyager. Donc ben, sans plus tarder, on s'en va aux échos de la toundra.
Les échos de la toundra. Frigorifique salutation à vous, funestes auditeurs de Lévis et d'alentour. Je suis Nafre. Une fois de plus, je suis là et raide fier de vous pitcher encore une fois dans une bien farouche méditation inspirée de l'esprit du black metal que je lance de genoux, raide ici à Iqaluit, de ma ville isolée au cœur noir de la terre de Baffin. Ce soir, la thématique établie par Maître Matraque est celle de la guerre. Puis moi, si vous ne l'aviez pas encore saisi à cause du patois qui a reçu d'entre mes sales lèvres, je vais y aller dans une direction particulière pour ce rite-ci d'Ars Macabra. Voyez-vous, ça va bientôt être le 13 décembre, ce qui est une date des plus importantes pour célébrer notre patrimoine, le jour du souvenir acadien. Cette date-là, elle commémore le naufrage des vaisseaux Le Violet et le Duke William, qui s'est passé le 12 puis le 13 décembre 1758, avec celui du Ruby une couple de jours plus tard. Et ça, c'est arrivé durant cette malheureuse affaire-là de la déportation des Acadiens, ce que nous autres on appelle le grand dérangement. En fait, ce jour-là du 13 était celui durant lequel le plus d'Acadiens moururent. Là, mes chers confrères du métal noir, je vais vous le dire comme ça, je suis fier en calvince avec vous autres de nos racines canadiennes-françaises et de ce merveilleux projet de souveraineté québécoise. Mais sacrement, il nous faut ensemble se rappeler de l'Acadie. Donc, à cette heure, c'est de ça que vous allez m'entendre fièrement vous huchier. Et fièrement, je vous dis bien, mon ancêtre René Coilet a peut-être débarqué sur l'île d'Orléans, right à côté de vous autres, ce qui fait de moi un homme de souche québécoise, pas un Acadien. Je suis peut-être bien un gars du nord du Nouveau-Brunswick, originaire de la fière République du Madawaska, ce qui est à l'extérieur de l'Acadie historique. Et puis, je fais bien partie de la nation Wolastoq-Yik ou Malécite, pas Micmac. Mais j'ai fait mon enfance et mon adolescence à Chuckport d'autre, à Memramcook, un village vraiment particulier, juste à l'extérieur de la ville de Moncton et situé entre la région francophone du sud-est de la province et proche du Grou territoire majoritairement anglophone de la Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas si longtemps, puis en même temps, pas si récent qu'on a baptisé Memramcook le berceau de l'Acadie. Puis ça, c'est parce qu'en 1881, c'était là, right là, que des Acadiens de partout se sont ramassés ensemble pour se proclamer une nation. J'ai grandi avec ça, cette histoire-là, dans un village qui date d'avant la déportation, jusque des Acadiens se sont battus contre les Rouges bien des fois, puis même encore toujours. Jusqu'on se rappelle encore de cette dette importante qu'on doit aux Micmacs pour nous avoir pris dans leurs bras. Jusqu'il y a encore des digues nommées Aboiteau, vieilles de plusieurs générations qui fonctionnent encore pour mouiller les grands champs fertiles. Jusqu'on raconte toujours des anciennes légendes comme Stella des bateaux fantômes de la bataille de Chipoudy. Et puis jusque la renaissance acadienne a vraiment pris son envol il y a presque un siècle et demi. Donc même si je suis ici en Arctique en train de me geler le cul ben raide, même si je suis Québécois de souche, j'ai bien l'Acadie à cœur, si pas dans le sang. Et vous autres, mes bons amis québécois, vous vous devez de la célébrer tout juste comme moi. Sauf pour cette édition de ma chronique que j'intitule exceptionnellement pour cette fois Les échos du tintamarre, laissez-moi vous parler de ma formidable patrie adoptive et pour un bon nombre d'entre vous, de votre héritage qui se nomme Acadie. Première chose, il me faut vous expliquer ce que c'est la dite Acadie. C'est pas vraiment une nation, ni une région, ni même une entité géographique ou démographique comme les autres. Elle n'existe pas à chaque part sur une carte, sur une map ou sur un papier de loi. L'Acadie, c'est vraiment un monde. Un peuple de gens qui sait d'ailleurs qui venons, yous qui sont, puis yous qui s'en vont. Puis ça fait longtemps qu'ils sont là, depuis 1604, donc leurs racines sont anciennes. En plus, les Acadiens et les Acadiennes, même ceux-là anglophones, même ceux-là américanisés sur plusieurs générations, de la Louisiane jusqu'à Terre-Neuve, ils savent exactement qui ils sont. C'est ça qui prime, se connaître, bien plus qu'une ethnicité, un fucking drapeau, des livres d'université ou un gouvernement composé de grosses poches puis d'encore plus grosses têtes. Alors, plongeons dans son histoire pour la connaître davantage, parce que c'est vraiment là qu'on va la découvrir. Des éducationnés voudraient vous faire croire que cela revient à 1524, quand un explorateur italien au service de François Ier de France est arrivé à la péninsule de Delmarva, située dans les états actuels du Delaware, du Maryland et de la Virginie. Pour ce grand écarté, cette région-là lui faisait penser à l'Arcadie des anciens Grecs, cette place-là étant un lieu idyllique pur et parfait. Mais si tu demandes à des historiens un brin plus fin, sans oublier les gens de chez nous, le mot Acadie vient d'un mot micmac qui veut dire lieu de campement. Des noms de places qui sont encore là aujourd'hui vont nous confirmer ça. Pensons à Chubenacadie ou Tracadie, par exemple. On devrait aussi remarquer qu'au début, on ne parlait pas de l'Acadie, mais plutôt de l'Acadie. Comme peuple, les Acadiens étaient différents des colons français, surtout des nobles qui étaient les grands chefs de la place. Les colons aristocrates qui arrivaient là, puis qui sont assez vite partis avec la conquête et le grand dérangement, n'ont quasiment rien laissé comme trace dans l'Acadie contemporaine. Comme je le comprends et que je l'ai témoigné, mais peu appris des instituteurs et des livres, l'Acadie est un peuple métissé. Des cartes de l'époque montrent comment les villages acadiens comprenaient des wigwams micmac, puis les documents prouvent qu'avec l'arrivée des hommes de France, plusieurs sont allés se trouver des femmes micmac et qui sont partis vivre et faire des familles dans les bois. Même le premier gouverneur, Charles de la Tour, avait épousé une femme passamaquoddy ou malécite. Le croisement était tellement prononcé qu'au temps de la déportation, un siècle et demi plus tard, un prêtre avait noté comment difficile il était de faire la différence entre un Acadien, un micmac et un malécite. Même les remèdes naturels traditionnels et la cuisine acadienne d'aujourd'hui, avec les tétines de souris, le madouesque, le houmar et j'en passe, ça montre ça. Puis et tout, le vocabulaire micmac, il contient beaucoup de mots français. Tout ça, ça démontre à quel point les deux mondes se sont très intimement unis dans l'amour, dans l'amitié et, comme je vais vous le raconter tantôt, dans la guerre. On peut aussi comparer le Québec à l'Acadie pour essayer de mieux la comprendre. Mais là, watchez-vous, je vais vous brasser dans vos convictions nationalistes. Je vais commencer tout doucement par dire qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux et que le Québec n'y est pas aussi spécial et unique que tout cela à côté de l'Acadie. Les deux se partagent après tout le même père fondateur, le grand visionnaire Samuel de Champlain. De plus, ce sont les Acadiens qui ont pas mal nourri l'effort du Bas-Canada, y compris s'il y a deux Québec. Dans les deux, les mêmes chansons ont été partagées par les familles comme la Bastrinque et V'là le bon vent. Les deux ont la même foi ancestrale, le catholicisme, qui reste quand même un élément identitaire de grande importance, comme on le voit dans nos fêtes nationales, nos drapeaux et tous ces accoutrements symboliques qu'on s'est donnés. Il y a même des grands Acadiens dans la belle province, comme Maurice Richard, Fred Pellerin et Yop, même le beau Gilles Vigneault. Puis enfin, il y a cette donnée généalogique très intéressante. Un Québécois sur deux a des racines acadiennes. Mais les différences sont à remarquer. Là, soyez pas choqués, ces différences importantes-là, elles ne sont point des questions de pouvoir ou non parler le bon français, ni non plus du fait que la poutine originale, c'est vraiment une boulette de patate râpée avec un cœur de porc salé, pas des fries puis de la grévée tabarnak. Écoutez, ce que j'ai à vous dire, c'est fort plus significatif et crissement plus conséquent. Outre le métissage davantage profond et un lien étroit avec la Confédération Wabanaki de l'Est, les Acadiens étaient moins fidèles à la couronne française. Ils étaient des fermiers, des chasseurs, des pêcheurs et des paysans d'une nouvelle patrie, sauvage et sans souverain, dont les terres et les mers sacrées sont faites pour les durs labeurs du cœur et les fières ambitions de l'esprit. Même dans ma région du Grand Memramcook et dans la région du Tintamarre, plusieurs étions allés s'installer là là-bas pour fuir les conflits militaires sans fin, mais et tout, pour s'éloigner de l'étouffante influence royale de la capitale de Port-Royal. Et on se rappellera qu'après le traité du Treca de 1713 et que l'Acadie passe une fois pour toutes aux Anglais pour être renommée Nova Scotia, la majorité avions choisi de rester totalement neutre. Tout le temps, ou presque, le but était de pouvoir vivre simplement et en paix. À ce point-là, les Acadiens étions un peuple entièrement distinct. Ils s'étaient gagnés des territoires riches, développés des forêts et des marais qu'ils avaient travaillé sur plusieurs générations et fait d'elles leurs terres ancestrales. Ils les avaient gagnés, leur Acadie, puis le travail avait été pénible. Avec leur rude mais efficace savoir-faire et une vaillante concertation, ils s'étaient assurés une remarquable autonomie. Ingénieurs, ils auraient vidé des lacs entiers et redirigé des rivières et puis, dans ces vastes étendues de marais salés les plus grands du monde, ils ont conquis la mer. Ça, c'est grâce à cette invention brillante qu'on nomme abrato, qui permet à l'eau de sortir mais pas d'y entrer, qui se trouve dans de titanesques digues bâties sur des kilomètres de longueur pour contrôler la mer et les violentes marées de la baie de Fundy. Le résultat a été de créer des champs agricoles parmi les plus fertiles de toute l'Amérique du Nord. Mais encore plus, cela a formé leur caractère distinctif. Les mœurs acadiennes privilégient l'humilité, la résilience et la fortitude communautaire avant tout. Et elles méprisent l'élitisme sous toutes ses formes et détestent l'individualisme excessif, surtout celle de ceux-là avec leurs accroires qu'ils essayent de nous faire penser qu'ils chient plus haute que le reste. Un texte de l'ancienne époque sert de très bien le contraste entre le Canadien puis l'Acadien. Alors que le Canadien y est jovial, charismatique et entre facilement en amitié avec quiconque, l'Acadien est réservé puis circonspect. Par contre, au contraire du Canadien à l'humeur et aux valeurs changeantes, l'Acadien est d'autant plus fiable puis loyal. Il est vraiment un ami à la vie puis un frère jusqu'à la mort. Des qualités, admettons, qui lui ont bien servi tout au long d'une histoire qui se lit comme une véritable saga des vieux pays. Mais ce qui fait vraiment l'Acadien un Acadien aujourd'hui revient à un grand fait historique, celui de la déportation que, je vous rappelle, on a baptisé le Grand Dérangement. Je vais aller là droit au but. Cette entreprise britannique lancée en 1755 après la prise du Fort Beauséjour, l'événement qui marque le début de la conquête de la Nouvelle-France, n'était rien de moins qu'un nettoyage ethnique. Sous l'ordre du gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, jusqu'en 1763, les Acadiens ont été déportés vers les colonies de la Nouvelle-Angleterre, alors que d'autres ont réussi à s'enfuir vers le Bas-Canada, vers l'île Saint-Jean, l'actuelle île du Prince-Édouard, vers les îles de la Madeleine et vers Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire aujourd'hui français. D'autres encore, comme dans mon village de Memramcook, se sont cachés dans le fin fond des bois chez les Micmacs. Plusieurs colonies ont refusé ces prisonniers, qui ont ensuite été ballottés et déportés vers l'Angleterre pour être ramenés en Nouvelle-Écosse ou bien charriés de port en port anglais, certains pour jusqu'à 7 ans en tout. Simplement et finalement, d'autres ont été envoyés en France, surtout dans la région du Poitou, avec de faux espoirs de pouvoir revenir en Acadie, mais pour ne plus jamais la revoir. Tout cela était orchestré comme une solution finale au problème acadien. Mais pourquoi? Les historiens débattent la question, surtout que, malgré ce qu'on pense, à cause d'un mythe historique anglais, les Acadiens avaient été des sujets britanniques depuis 1713 et n'avaient pas refusé de faire serment d'allégeance à la couronne. Plusieurs l'avaient prêté, en fait, surtout une génération plus tôt vers 1730, avec la condition qu'on leur demanda pas de prendre les armes contre leurs frères français. Mais le criminel de guerre Charles Lawrence craignait pour une raison incertaine une grande rébellion ouverte. Chose certaine, l'ignominieux chef de guerre convoitait les très riches terres de l'Acadie. En 1754, alors que la France et la Grande-Bretagne étaient toujours en paix, il a proposé à Londres purement et simplement les leur voler pour ensuite les donner aux colons anglais. Dans une lettre aux autorités anglaises, il écrit, et je cite, « Comme les Acadiens possèdent les plus belles et les plus grandes terres de cette province, nous ne pourrons pas s'y installer pour de bon temps que ce sera le cas qu'ils sont là. Je ne puis m'empêcher de penser qu'il serait préférable qu'on les chasse. » Mais selon moi, j'ose dire qu'une des raisons les plus importantes a été le lien familier, économique, confessionnel et, dans certains cas, militaire avec la nation Micmac. Les Micmac, ces redoutables guerriers de la contrée du soleil levant, ont depuis l'arrivée de l'Angleterre sur leur terre été en gros tabarnak avec cette autre nation européenne. À partir de cette merveilleuse rencontre entre Jacques Cartier et le grand chef Membertou en 1534, les Français ont toujours respecté la souveraineté Micmac et avons entretenu avec eux des relations harmonieuses, alors que les Anglais les gardaient à part et les traitaient comme une race de sous-hommes, dépourvus d'intelligence et de dignité, mais surtout sans droits légitimes ou légaux. Et avec bonne raison, les Micmacs, qui faisaient partie de la Confédération Wabanaki, ont longtemps résisté contre les incursions anglaises et protégé leurs terres en tuant des soldats et des civils britanniques le long de la frontière entre la Nouvelle-Angleterre et l'Acadie. Au cours du 17e et au début du 18e siècle, les Wabanaki, y compris les Micmacs, les ont durement battus dans plusieurs campagnes, notamment en 1688, 1703, 1723 et trop d'années pour compter. En voici, par contre, une campagne de plus à souligner. En 1749, le général Edward Cornwallis, voulant avoir un pied stratégique à partir duquel attaquer la forteresse de Louisbourg sur l'île Royale, au Cap-Breton actuel, fonda dans la région de Jipugtug la ville d'Halifax, n'y apportant rien de moins que 1176 colons et leurs familles. Ce fut un geste unilatéral qui viola les traités antérieurs établis avec les Micmacs une génération plus tôt, et donc un acte d'agression. Cette arrogance lui coûta cher, et comme retombée, la Loutre's War fut déclarée, une initiative militaire menée par le prêtre Jean-Louis Loutre à la tête d'une offensive de milices guérilla Micmac et, je le souligne, d'Acadiens. Parmi eux, on retrouve trois grands hommes que très peu de Canadiens québécois ou d'Acadiens d'aujourd'hui connaissent. Joseph D. Beausoleil Broussard, chef de la résistance et un véritable géant de cette époque qui a participé à de nombreux conflits avant de se trouver dans son sanctuaire final en Louisiane. Charles Deschamps de Boishébert, un autre tout aussi redoutable et louable combattant qui devait être le grand protecteur des familles agressées et messie des réfugiés de la déportation. Et le chef Jean-Baptiste Cope, un sac à mort de Shubenacadie qui a été fait majeur par les Français, le rang le plus élevé obtenu par un guerrier Micmac. De nombreux raids ont été ensemble orchestrés, au point où Richard Buckley, le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, nota que sa province était maintenue dans un état de guerre ininterrompu à cause de ses Acadiens. Quelques années suivantes, le général Cornwallis fera la proclamation suivante. Par et avec l'avis et le consentement du Conseil de Sa Majesté, nous autorisons et commandons tous les officiers civils et militaires et tous les sujets de Sa Majesté ou autres à ennuyer, à affliger, à prendre ou à détruire les sauvages communément appelés Micmacs, là où ils se trouvent, et tous ceux qui, en tant que tels, les aident et les assistent, donnent en outre, par et avec le consentement et l'avis du Conseil de Sa Majesté, promettent à l'officier commandant une récompense de 10 guinées pour chaque Micmac indien pris ou tué, récompense qui sera versée sur présentation de ce sauvage pris ou de son scalp s'il est tué. Puis, n'oublions pas le monstre maréchal Jeffrey Amherst, un promoteur de la guerre biologique génocidaire qui avait écrit à un ami mercenaire suisse, et je le cite, « Vous ferez bien d'essayer d'inoculer les Indiens au moyen de couverture, ainsi que d'essayer toutes les autres méthodes qui peuvent servir à extirper cette race exécrable. Je serai heureux que votre projet de les chasser avec des chiens puisse prendre effet, mais l'Angleterre est trop éloignée pour y penser actuellement. » Terrible, mais terriblement important pour notre compréhension. La lecture que moi j'en fais, c'est que le nettoyage ethnique de la déportation des Acadiens et la tentative de génocide des Micmacs vont de pair. Et alors, c'est pas rien que le grand dérangement, mais aussi ce lien vital partagé avec cette fière nation autochtone qui donne à l'Acadie son identité distinctive. Chose qui est certaine, les atrocités furent nombreuses et le traumatisme collectif profond. En plus du fait que leurs riches terres furent justement confisquées et putain remises aux colons protestants anglais et allemands, plusieurs communautés ont été pilées, détruites et incendiées. Des hommes comme des femmes et des enfants ont été chassés et abattus comme des bêtes sauvages, certains même scalpés. Et leurs chaloupes, leurs bestiaux, leurs céréales, bref, tous leurs biens ont été empoignés au profit de la couronne. L'île Saint-Jean au complet a été presque vidée de sa population dans moins de 3 ans. L'Acadie française s'est vue être éclatée, avec quelques villages en Nouvelle-Écosse, tous maintenant isolés des uns des autres. Ce qu'on peut toujours témoigner sur une carte d'aujourd'hui. Et pour l'Acadie au complet, sur une population totale de l'époque de presque 15 000 âmes, plus des 2/3 ont été déportés et la moitié d'eux ont mouru durant cette période, suite aux maladies, à la malnutrition, aux duretés physiques et aux dangers associés à ce haineux transport de monde. Mais, il faut le dire, malgré les ravages de tout cet tragique épisode, l'Acadie a survécu et son peuple s'est épanoui, s'est mobilisé et s'est enrichi. Les combats depuis ont été multipliés multiples. Ils le sont toujours, d'ailleurs, même au Nouveau-Brunswick, où plus du tiers de la population est francophone. Et d'autant plus en Nouvelle-Écosse, qui, même malgré la loi sur les langues officielles de 1669, dans une tentative d'assimilation et de perpétuer la terreur de la déportation, refusa le droit aux Acadiens d'obtenir et de bénéficier de l'éducation de langue française. Heureusement, les victoires ont été nombreuses. Depuis l'envol de la Renaissance acadienne en 1881, la suite d'une rencontre avec la Société Saint-Jean-Baptiste, mais aussi des réclamations et des revendications des gens eux-mêmes, les Acadiens sont devenus une nation à part et intègre. L'Acadie est reconnue, valorisée, vivante et crisse ce qu'elle fait du fucking bruit. Surtout lors de ce qu'on appelle un grand tintamarre, un énorme et vivant défilé de gens le 15 août dans tous les grands villages qui tapent sur toutes sortes d'affaires, des pots, des diffères, des clochettes, puis qui huchent et beuglent juste pour dire aux goddamn, c'est-à-dire aux Anglais, vous avez essayé de nous tuer, de nous effacer, de vous débarrasser de nous autres, mais on est toujours là, puis plus fort que jamais. Quand j'y participe moi-même, comme elle est délicieuse, cette vengeance culturelle. On descend la Main Street au plein downtown de Moncton, ville ironiquement nommée après un monstrueux criminel, le général Moncton. Que sa sale carcasse l'entende depuis le fin fond de son trou de mort. L'Acadie est vivante! Et je vous donne une victoire particulière et bien remarquable que souvent plusieurs Acadiens ne connaissent même pas. En 2003, après une longue croisade légale menée par un descendant cajun de Beau Soleil Broussard lui-même, Warren Perrin, les Acadiens n'obtèrent rien de moins qu'une proclamation royale émise par la reine Élisabeth II qui déclare reconnaître les faits historiques de la déportation des Acadiens et de ses conséquences tragiques. Mais ne vous en faites pas, on n'avait pas vraiment besoin de ça, nous autres. Après tout, c'est comme la célébrée auteure acadienne Antoinette Mayenne nous l'a dit. L'Acadie ne mourra jamais, parce qu'elle vit dans le cœur de tous les Acadiens. Alors ce soir, je vous exhorte, versons une larme pour l'Acadie, mais surtout, lâchons-lui un puissant cri à retentir dans l'histoire passée comme à venir, et qui va se faire entendre par l'entièreté des nations francophones de l'Amérique. Ensemble, nous sommes libres. Ensemble, nous sommes invincibles. Qu'on se rappelle de cet ancien proverbe de l'Acadie gravé sur le cœur de ses hommes et de ses femmes depuis 1604. L'union fait la force. Je vous laisse cette fois avec de quoi de différent qu'à l'habitude. J'ai qu'à faire d'autre qu'une offrande musicale de composition black metal en lien avec la thématique. De toute façon, je vous ai déjà fait connaître à différents moments Funeral Fog, Mars Creation et Milice, des groupes black de l'Acadie. Au lieu et parce que je tiens absolument à vous la faire connaître et parce que tabarnak, je veux proclamer mon amour pour ma patrie adoptive d'enfance, je vais vous chantoyer une complainte bien spéciale qui met en évidence les faits, mais surtout les sentiments et le message au cœur de ma chronique ce soir. Il s'agit d'une chanson qui date du tout premier album du chansonnier louisianais Zachary Richard, Bayou des Mystères de 1976, qui s'inspire d'un passé vivant et qui nous alerte à l'apocalypse d'un avenir anglophone. Un où l'Acadien, le Québécois, le Métis ou tout autre francophone d'Amérique risque de mourir étouffé et assimilé et d'être de même effacé de son existence et de notre histoire. Le pire, toutefois, ce n'est pas l'action de l'ennemi, mais notre inaction, notre manque d'engagement, notre manque d'éveil. Alors, avec Zachary, avec Beausoleil et Boishébert, avec mes voisins d'enfance et mes compatriotes lointains, avec vous, fiers Québécois, depuis ma toundra distante, loin des mers bleues et des champs dorés de l'Acadie, je vous chante pour clôturer ce chapitre. Réveil!
Réveil, réveil, c'est les goddams qui viennent voler la récolte. Chassés comme des bêtes, détruire les famines où j'étais tout sauvant. Réveille, réveille, c'est les cadèmes qui viennent voler la récolte. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver le village, j'ai entendu parler d'aller avec beau soleil, de prendre le fusil puis battre les sacrés maudits. J'ai entendu parler d'aller dans la Louisiane pour trouver la bonne paix là-bas dans la Louisiane. Réveille, réveille, c'est les goddams qui viennent voler la récolte. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver le village. J'ai vu mon pauvre père qui était fait prisonnier pendant que ma mère, ma très chère mère, elle broyait. J'ai vu ma belle maison, elle était mise aux flammes. Et moi, je suis resté orphelin, orphelin de l'Acadie. Réveille, réveille, c'est les goddams qui viennent brûler la récolte. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver le village. Réveille, réveille, femmes acadiennes, ils nous volent nos enfants. Réveille, réveille, femmes acadiennes, pour sauver l'héritage, pour sauver l'héritage, pour sauver l'héritage.
Et c'était donc Les Échos sur la toundra depuis Iqaluit. Donc, merci à Nafre. J'espère que vous avez aimé. Bon, pour ceux qui se demandaient, il l'a présenté à la fin, la pièce qu'il chantait, c'est une chanson de Zachary Richard. Je sais, c'est pas très métal, sauf que dans le contexte, je trouvais que ça s'y prêtait vraiment. Et le message de cette chanson-là est assez intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et là, nous autres, sur ce, on s'en va au bloc musical. Donc, on s'en va entendre un groupe, encore un groupe allemand. Ce soir, c'est la soirée des groupes allemands. Le band s'appelle Slagmark. C'est un album qui est paru en 2020 qui s'appelle Purging Sacred Soils et la pièce s'intitule Built on Bone Hills. Et là, maintenant, ça va être le moment d'aller entendre le conte de Quentin Fourreau. Mais avant d'aller entendre ça, je voudrais peut-être vous présenter un peu de quoi ça va parler. Donc, cette semaine, Quentin nous amène en Russie. OK, c'est un conte nécromantique de la vieille Russie dans lequel un soldat accompagne le cadavre de son grand-père dans sa chasse aux chrétiens et ses sorcelleries. Donc, c'est un conte qui est tiré de l'anthologie d'Afanassiev, qui est le plus, russe, qui est le plus célèbre conteur russe. Et ben dans le fond, là-bas, c'est un peu l'équivalent, de en termes de renommée, de ce que les frères Grimm ont pu avoir comme renommée en Allemagne. Donc, si vous voulez, évidemment, j'allais dire, si vous voulez voir une photo de qui est ce monsieur-là, ben vous pouvez aller faire un tour sur le compte Instagram du show. Il y a les photos qui ont été envoyées par Quentin, donc vous pouvez aller consulter ça. Et là, ben sans plus tarder, on s'en va en Russie avec Quentin à l'instant.
L'ancêtre revenu de la mort. Dans un creux glacial de la Russie des vieux siècles, il y avait un soldat qui revenait de 15 années de guerre. Il était maigre, maigre comme l'hiver qui le voyait revenir au pays. Pendant des jours, il avait marché contre l'hiver, sur des chemins couverts de neige qu'il ne voyait parfois même plus, mais qu'il connaissait par cœur. Car c'étaient les chemins de ses ancêtres qui le menaient au village de ses ancêtres. Mais en arrivant au village de ses ancêtres, il n'a vu personne. Le village était désert, il était mort, mort comme les vents qui le traversaient. Les portes des isbas étaient restées ouvertes, aussi les fenêtres. C'était comme des bouches et des yeux qui hurlaient un long cri pour dire à l'hiver de s'installer et de faire comme chez lui. Et dans l'isba de ses ancêtres, il n'a trouvé personne. Elle aussi, elle avait l'air morte. Morte ? Oui, mais alors, pourquoi y avait-il des dizaines de zakouski et un plein verre de vodka sur la table poussiéreuse ? Comme si quelqu'un venait de partir, ou comme si quelqu'un allait revenir. Mais le reste de cet endroit sentait bien la mort, et la mort froide, la mort qui peut pas se payer de tombeau, ou celle qui sort de sa tombe. Ce repas-là, il donnait à l'isba une présence d'après-tombe. Bon, tant pis, qui s'est dit le soldat. L'hiver ne mange pas la nourriture des hommes, alors ça sera pour moi. Il s'est assis en faisant grincer la chaise, et il a mangé, et il a bu. Mais soudain, il était plus seul. Quelqu'un venait du dehors et lançait des pas familiers dans la neige. Des pas qu'il n'avait plus entendus depuis son départ pour la guerre, 15 ans plus tôt. Mais ces pas-là qu'il entendait, c'était des pas qui traînaient quelque chose avec eux. Quand on a vécu la guerre, vous savez, en traînant des brouettes de boue, des sacs de vivres, des cadavres parfois, eh ben, on finit par connaître le bruit de tout ce qui traîne. Et ce qu'il entendait traîner, là, dans ses pas, c'était de la terre molle et froide, et de la cendre. Mais quand son grand-père est entré dans l'isba, c'était bien lui. Il l'aurait pas reconnu s'il avait pas reconnu ses pas. Il se souvenait d'un vieux qui était solide, qui avait le souffle silencieux et encaissé dans sa gorge de russe. Alors que, dans ce crépuscule d'hiver cendreux, son grand-père avait l'air maigre aussi. D'un maigre qui doit se plier pour pouvoir avancer. Et il donnait l'impression que son souffle partait et sifflait par tous les trous de sa chemise. Il n'avait pas vu son grand-père depuis 15 ans.
« Bonjour, mon descendant !»
qu'il a hurlé dans sa voix pleine de trous, comme son souffle. « Bon, bonjour, mon ancêtre !»«
Voilà bien des années. Tu étais à la guerre, c'est ça ? Tu allais à la mort, à la guerre !»«
Oui, la guerre, oui. Mais j'en suis revenu de la guerre. »«
Bon, revenu de la guerre. J'imagine que c'est un peu comme revenir de la mort.
» Le grand-père s'est assis à la table et il a tiré à ses maigres mâchoires quelques zakouski.
Alors, parle-moi de la guerre.
Alors le soldat lui a parlé de la guerre, de son régiment, de ses ennemis, de ses marches, ses longues marches, et puis des terres loin d'ici qu'il avait défendues, qu'il avait conquises, et le grand-père écoutait, mais avec les yeux de celui qui sait déjà tout et qui a déjà vécu pire. « Mais dis-moi, grand-père, mon ancêtre, où sont mes frères qui vivaient là quand je suis parti à la guerre ?»«
Ah, tes frères ! Ne t'occupe pas de tes salauds de frères ! Ils sont partis vivre dans le village voisin maintenant. Oh, ils te diront, dans leur mauvaise foi, que je les ai chassés. Mais ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas ce que je fais maintenant. Mais comme ce sont de bons Russes bien élevés, ils m'apportent quand même tous les jours mon repas et ma vodka. »
Et le grand-père a attrapé le verre aussi vite qu'un corbeau qui becque un asticot, et il se l'est vidé dans le gosier, en grinçant, comme l'hiver dehors. Le soldat n'avait pas revu son grand-père depuis 15 ans. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il était mort depuis 10 ans.
Mais tu n'es pas comme tes crétins de frères. Toi, tu reviens de la guerre. Tu ne dois pas te contenter d'un repas jeté par charité aux vieux qu'on oublie. Dis-moi, mon descendant, que dirais-tu d'un repas de noces ? Je sais qu'il y en a une ce jour même dans le village voisin. Viens, nous y mangerons mieux.
Mais tu connais les mariés ?
Non. Mais eux, ils me connaissent. Et puis, tant pis pour eux, ils me traitent si mal depuis 10 ans. Tu vas m'aider. On va refaire des bêtises, toi et moi, tous les deux, comme quand t'étais petit. Tu attendras sous la fenêtre. Tu prendras ce que je t'enverrai. Et tu le mettras dans la voiture. Ensuite, je leur flanquerai la frousse et on va bien rigoler tous les deux.
Le soldat a suivi son ancêtre dehors, en marchant dans la terre et la cendre que ses pieds laissaient traîner sur le sol. Devant la maison, il y avait une troïka, un traîneau de ces terres-là, qui était couleur de terre cendreuse, elle aussi. Et devant la troïka, il y avait 2 chevaux noirs, attachés et bridés, qui creusaient le sol neigeux avec des sabots de fer. Mais d'aussi loin qu'il s'en souvenait, le soldat avait toujours vu son grand-père voyager à pied, pourtant. D'où est-ce qu'il pouvait bien revenir, son grand-père, quand il est arrivé, tout à l'heure, sur cette voiture de terre et de cendres ? Le soldat a suivi son ancêtre dans la troïka, et le bois et les brides en cuir se sont mis à trembler, comme à la descente d'une montagne tout en roche. Les chevaux ne soufflaient pas, mais ils galopaient, les jambes enfoncées dans la neige. Et tout autour du soldat, il y avait des champs, des chemins, des bois et des isbas qu'il avait connus dans son enfance et qui étaient gris de cendres et qui passaient vite, 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 trop vite. Cette chevauchée-là, elle détestait les souffles, elle empêchait les souffles. Il n'a pas eu le temps de souffler 3 fois, le soldat, qu'ils étaient déjà arrivés. L'isba devant laquelle ils étaient, elle était vaste et colorée. On sentait, en la voyant, que le poêle y fumait un mariage. Les fenêtres étaient ouvertes pour accueillir les anges. Et un mendiant était même venu se mettre au chaud de la fête sur le petit banc de l'entrée.
« Attends-moi sous la fenêtre. Ils vont crier, tu vas voir. Oui, ils vont crier. Mais nous, tu vas voir comme on va rire, comme on va rire. »
Et le grand-père est entré dans l'isba des noces. Le soldat regardait par la fenêtre et il voyait son ancêtre passer parmi les invités, autour d'eux, entre eux, et comme à travers eux, car personne ne semblait le remarquer. Tant mieux, après tout. Le petit-fils, il avait le souffle et le cœur qui ne s'entendaient pas. Il reconnaissait son grand-père, mais pas cette présence hivernale, presque absente en lui. Oh ! Le soldat n'avait pas revu son grand-père depuis 15 ans. Et ce qu'il comprenait maintenant, c'était que son grand-père était mort depuis bien trop longtemps. Mais soudain, oui, les invités ont crié. Quand le grand-père s'est saisi des angles de la nappe de la table avec tout ce qui était posé dessus, il en a fait un baluchon et il l'a jeté par la fenêtre. Alors oui, oui, ils ont crié les invités en s'écartant de la fenêtre. Sans regarder le grand-père qui riait, qui riait, qui riait. Et pendant que toute cette noce regardait, bouche ouverte, la fenêtre béante qui avait laissé fuir le repas, l'ancêtre a continué de rire en s'approchant des mariés. Il a retroussé sa manche. Il a serré la gorge du fiancé et lui a enfoncé son bras nu, sec, bleu de froid, brun de terre, sale de pourriture dans le fond de la gorge et jusqu'au ventre. Qu'est-ce qu'il riait ? Qu'est-ce qu'il riait ? Et le fiancé qui cherchait partout du regard la cause de sa mort, partout, sauf dans les yeux de l'ancêtre. Son cadavre au souffle arraché n'avait pas encore touché le sol que le grand-père a fait pareil avec la fiancée. En la serrant contre lui par la taille, en plus de lui fouiller la gorge par le dedans. Et puis il est parti en crachant de rire, par la même porte, et tous ils hurlaient sans le regarder. Vous comprenez ? Eux, tout ce qu'ils avaient vu, c'était la nappe et le repas s'envoler tout seuls par la fenêtre, et les mariés se tordre en battant des bras, tout seuls, tout seuls, tout seuls. C'est que l'ancêtre revenait de la mort et la mort donne bien des sorcelleries à ceux qui reviennent pour en témoigner. Le soldat avait jeté le repas de noces dans le traîneau, et il y attendait son ancêtre. S'il lui désobéissait, à lui aussi l'ancêtre revenu de la mort lui arracherait le souffle en allant le chercher dans le corps. Non, 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 tout vaillant soldat qu'il était, il ne pourrait rien par la force et la défiance face au maléfice de l'après-tombe. S'il tenait à son souffle, il allait falloir le manier pour tromper son ancêtre. Le grand-père a lancé les chevaux, qui ont enfoncé leurs jambes dans la neige, qui ont lancé la troïka contre le souffle du vent de la nuit qui tombait déjà. Et le soldat a lutté pour garder son souffle à lui entre ses dents et pour parler. « Grand-père, grand-père, mon ancêtre, je sais d'où tu viens maintenant. Et tu sais, j'ai souvent vu la mort à la guerre. Et quand elle viendra me prendre, je veux faire comme toi, grand-père. » « Depuis combien de temps reviens-tu de la mort ?»«
10 ans, mon descendant !»«
Et pour combien de temps encore reviendras-tu de la mort ?»«
Aussi longtemps que je le voudrais, mon descendant !»«
Et rien, jamais rien, ne peut nous empêcher de revenir de la mort !»«
Oh, si fait ! Mais nul parmi les vivants ne le sait !»«
Est-ce que je peux le savoir, moi, grand-père ?»«
Non !» Tu le sauras en temps voulu, mais pas maintenant.
Je t'en prie, grand-père. Pense à l'aide que je pourrais t'apporter si je pouvais t'aider à protéger ton secret.
Bon, alors écoute. En bas de la petite côte qui descend au ruisseau, il y a un poirier desséché. 7 personnes doivent le déraciner. Sous le poirier, il y a une fosse. Que les 7... jette dedans mon cercueil et renfonce et renterre dessus le poirier à l'envers. Alors seulement, je ne reviendrai plus, mon descendant.
Et les vivants que nous tuerons ensemble, ne peuvent-ils pas revenir de la mort ?
Si fait, mais pas comme moi. Il faut aller chercher un veau qui est né le même jour que le massacre. Il faut l'égorger, lui arracher le cœur, recueillir le sang qui y palpitait et en couvrir les morts. Alors ils reviendront, mais ils reprendront leur vie où elle avait cessé, sans sorcellerie.
Après ces souffles, échangés d'aïeul à descendant, la chevauchée des cendres s'est arrêtée devant l'isba familiale. Le grand-père a lancé le baluchon par la porte, et nappes et repas se sont étalés sur la table de poussière et de givre, comme ils étaient disposés aux noces. Et l'ancêtre qui se jette sur la table et qui commence à dévorer à 4 pattes tout ce qu'il avait volé. Les viandes et les pains, les poissons, les légumes, les sucreries, tout. Il engloutissait tout dans son gosier plein de trous creusés par les vers et il s'arrachait les mâchoires pour en avaler plus et plus et plus et plus encore. Et quand il a tout engouffré, il a dévoré aussi les plats d'argent, les couteaux aiguisés, les cuillères en bois sculpté, les bouteilles de verre, et même la nappe qu'il a longtemps mâchée. Et pendant tout ce temps, son descendant était dehors, et il fouillait le tas de bûches moisies qui avait trop longtemps traîné sur le côté de l'isba.
« Ah, la mort donne faim, plus que la vie !» « Je veux manger, et manger encore. Mon descendant, viens que je te mange !»«
Mais comment pourrais-je t'aider dans ta mort si tu me manges ?» Et il continuait de chercher.
« Qu'importe, qu'importe, tu reviendras de la mort toi aussi, mais viens ici !»«
Mais tu ne trouveras presque rien à manger sur un pauvre soldat tout maigre comme moi !» Et il continuait de chercher.
« Tu serviras à boucher ma dent creuse, j'ai dit, viens ici !»
Enfin, le soldat a sorti des bûches une épaisse branche de tremble. Parce que, si la guerre lui avait appris à tuer les vivants, sa grand-mère lui avait souvent raconté, bien avant, comment tuer les morts revenus de la mort. « Si tu veux me manger, vieux mort, viens, viens me trouver dehors !» L'ancêtre satanique a renversé la table. Il a hurlé contre les murs. Il a couru à travers l'isba en éclaboussant les murs de terre de tombe.
Il s'est jeté à travers la porte, dans le blanc neigeux de l'aube, ses bras pourris jetés en avant, et grande gueule morte ouverte à la chair de son descendant. Mais c'est là-dedans que le soldat a planté le pieu de tremble dans le crâne de cendre. Il l'a tourné pour broyer pour de bon le souffle du mort, et il l'a jeté à terre au moment où, dans le lointain de la plaine, un coq hurlait le matin qui venait. Et ce cri-là, ouverture séculaire des jours des vieux peuples, ce cri-là, ça a pétrifié le mort sur le perron de l'isba. Le soldat a couru dans la neige épaisse au village voisin pour retrouver ses frères. Avant qu'il n'ait pu lui dire que leur ancêtre maudissait la plaine et les vivants, il leur a tout raconté. Comment il l'avait vu ruiner une noce et se figer au chant du coq. Avec ses frères et des volontaires parmi les forts du village, ils ont chargé le corps de l'ancêtre, ils ont déraciné le poirier desséché du bas de la côte du ruisseau, ils ont jeté le cadavre dedans la fosse avec son cercueil, et ils ont renfoncé l'arbre noir, racine au ciel, dans la terre glaciale. Ils ont ensuite sacrifié le veau nouveau-né du jour du massacre, et ils ont couvert du sang de son cœur les mariés au souffle arraché la veille. Ses fiancés ont bien vécu leur nuit de noces, et ils l'ont vécu le soir même. Et le soldat est retourné vivre dans l'isba de sa jeunesse, de son ancêtre, et de ses fils à lui, pour leur jeunesse aussi. Il y a vécu loin de la poussière des tombes. Et lorsque l'isba a eu 100 ans, comme le veulent les fermes croyances des Russes, il était temps de l'abandonner pour en bâtir une nouvelle. Mais c'est cette année-là que le soldat y est mort, entouré de ses fils. Mais il ne leur a jamais délivré le secret du poirier. Quand ses fils lui ont demandé si on ne pouvait pas renfoncer et renterrer les morts, le soldat, il a simplement répondu dans un dernier souffle « Oh, si fait, mais nul parmi les vivants ne le sait !»
L'ancêtre revenu de la mort. Conte russe d'Alexandre Afanassiev, dans Conte populaire russe, tome 3, section Récits sur les morts, conte numéro 257. Initialement publié en Russie entre 1855 et 1863.
C'était le conte du soupirail avec Quentin Fourreau. Donc, merci Quentin. Et là, ben nous, on arrive à la fin du show. C'est donc le moment de faire la ronde de remerciements. Donc, merci à vous, les auditeurs qui êtes là jusqu'à la fin du show, qui nous écoutez du début à la fin, qui partagez aussi le show à vos connaissances qui pourraient être susceptibles d'aimer le contenu qu'on fait. Donc, merci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets ou des questions que vous aimeriez qu'on aborde. Je pense notamment pour les sujets de chronique, comme la chronique Gear. S'il y a un sujet que ça vous tente d'entendre parler, écrivez-nous, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et là, je vous rappelle qu'il est possible d'aller s'abonner au podcast sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Donc, celle de votre choix, là, y en a. On n'est pas sur toutes les plateformes, mais on est sur quand même plusieurs plateformes différentes. Et je vous rappelle qu'on a aussi un site Mixcloud sur lequel vous pouvez télécharger l'application et avoir les épisodes à mesure qu'ils sortent. Ensuite de ça, un gros merci à Moribond pour le logo. Merci à Monarch et Angantyr pour les thèmes musicaux. Merci à Yaoi pour le montage. Et là, ben moi, sur ce, je vous dis au prochain épisode.